Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Longtemps, longtemps avant le TGV, un voyage en Lorraine était proposé par Jean-François Noël. Nous étions le 28 août 1971. Le conservatoire et le musée de Nancy, la place Stanislas, bien sûr, le salon de l'hôtel de ville et l'académie et la foire de la place Carnot. Texte lu par Alain Cuny et Michel Bouquet, réalisation François Brignier.
Une fois encore, je refais ce voyage de Paris à Nancy en attendant le dernier. Et je relis pour la quantième fois cette page d'Étienne Catin dans Ceux du rail, quand les grands express qui mettaient plus de 4 heures pour aller de Noisy-le-Sec à Champigneulles étaient encore tractés par de puissantes machines à vapeur de la série des 341 000. Le train joue à cache-cache avec la Meuse, qu'il franchit plusieurs fois, puis quitte brusquement la vallée de ce fleuve pour gagner celle de la Moselle, toute proche. La ligne s'est élevée quelque peu pour passer de l'une à l'autre, et la Mountain a ralenti légèrement son allure. Puis la voici qui plonge de nouveau sur une pente assez douce, mais continue jusqu'à Toul. Quand Allard passe de jour dans ces parages, il aime regarder ces paysages riants. Ceux-ci font oublier les grandes étendues sans relief de la Champagne ou de la Meuse qu'il a traversées des milliers de fois. Une petite rampe avant l'Yverdun ramène l'aiguille à 100 durant quelques instants, puis la locomotive repart à sa vitesse limite. C'est la fin du voyage. Le train pénètre dans la grande banlieue de Nancy et se faufile au milieu d'un dédale de voix qui rappelle celui de la région parisienne. Cela commence avec les sauts de moutons ainsi que le raccordement de Frouard et se poursuit avec les appareils de la bifurcation de la ligne de Metz. À quelque distance de tout ce mélange de rails, les eaux, celles de la Meurthe et celles de la Moselle, se mêlent aussi. La Mountaine franchit un canal, passe sous un téléphérique et s'introduit finalement dans la tranchée que dominent les maisons et les rues de Nancy. La marquise apparaît, en partie cachée par le pont qui traverse les voies à l'entrée des quais. La locomotive pénètre entre les quais, tandis que le haut-parleur annonce son arrivée. En face stationne une rame de sens contraire. Il y a entre les deux convois beaucoup plus de voyageurs qu'à Chalon-sur-Marne ou qu'à Bar-le-Duc. On sent qu'on vient de rentrer dans une petite capitale. Une petite capitale. C'est bien vrai que Nancy est une petite capitale. La capitale de ma Lorraine. Je retrouve les deux tours gothiques de l'église Saint-Léon-IX, de l'oncle Abbé, et si ce n'était la tour Saint-Jean qui s'élance dans le ciel de la Meurthe et Moselle comme le donjon du XXIe siècle, rien, me semble-t-il, n'a beaucoup changé. Non seulement depuis mon adolescence, mais depuis la naissance de mon père en 1866, rue de Serre. Même gare qui date des débuts de la ligne de l'Est et qui a survécu à 3 guerres, et même statue en bronze de Thiers, qui, lui, survivra à la cité. Je n'ai que quelques pas à faire pour retrouver la salle Poirel et tous ses fantômes de distribution des prix et de vente de charité. Et puis ses concerts dominicaux, suprême récompense des écoliers. Je revois ce bon monsieur Schaeffer, alors premier violon de l'orchestre du conservatoire, Alfred Bachelet en habit, et Guy Ropartz, qui redonna immédiatement en deuxième audition l'après-midi d'un faune pour que les Nancéiens comprennent bien. Par cette belle matinée d'été, rien n'a beaucoup changé, et je surprends l'orchestre symphonique de Nancy en pleine répétition sous la direction de Guy Condet. Thank you.
Gaston Bollaerts, ça n'est pas sans beaucoup de plaisir et même un peu d'émotion que j'en reviens presque 30 ans plus tard dans les locaux du conservatoire de musique de Nancy et principalement dans cette salle Poirel qui n'a pas changé pratiquement. Et je retrouve dans cette chère salle Poirel, qui n'est pas loin de votre bureau, monsieur le directeur, les noms de Mirabeau, de Danton, du général Foy, de Thiers. Je ne savais pas que ce fussent des compositeurs.
Et non, certainement pas. Mais je pense que c'est une idée du constructeur de la salle Poirel, en fait, du mécène, qui a voulu illustrer par ce bâtiment splendide de nom qu'il aimait particulièrement, fort probablement.
Vous occupez un fauteuil où des noms illustres se sont succédés qui remontent déjà à notre enfance, comme celui de Guy Ropartz et celui de Bachelet, d'Alfred Bachelet. Je voulais savoir, essentiellement de vous, quel était l'état actuel, si vous voulez, de la musique en Lorraine. Principalement, on se pose la question, on se demande si les petits Lorrains, parce que finalement c'est la jeunesse qui nous intéresse tous, à l'oreille musicale, et s'ils ne sont pas plus tentés par les carrières industrielles.
Ils seront certainement aussi tentés par les carrières industrielles, mathématiques, ils sont aussi tentés par les affaires culturelles d'ailleurs. La vocation artistique de la Lorraine est évidente, de par les moyens dont elle dispose déjà, tant sur le plan didactique, je parle du conservatoire régional de Nancy, celui de Metz, naturellement, d'écoles de musique dans des villes de moindre importance, que dans le domaine de la diffusion musicale proprement dite. Les perspectives de cette vocation, à mon avis, ne peuvent être qu'optimistes si on considère, d'une part, l'augmentation sensible, je dirais même la multiplication de l'effectif des élèves des conservatoires régionaux de Nancy et de Metz, effectifs qui ne peuvent que grossir les rangs du public, nous dirons de ce public consommateur de musique.
Gaston Bollaerts, je pense que la musique, bien sûr, a besoin du public et c'est le public, comme vous disiez, qui commande, finalement. Mais elle se nourrit aussi de création. Et il est bien évident que, je pense qu'une partie de la jeunesse, ça doit être également sensible à Nancy, est peut-être un petit peu curieuse de nouveautés en matière de musique. Il est difficile de nier, par exemple, l'apport du son enregistré ou des musiques électroniques. Mais pour en rester dans la tradition qui est quand même finalement la base de toute culture, musicale ou autre, est-ce que vous avez le sentiment que la Lorraine a donné au monde musical des grandes âmes?
Certes, la Lorraine a eu des compositeurs soit d'origine, soit d'adoption, je pense notamment à Guy Ropartz qui fut directeur du conservatoire de Nancy durant de nombreuses années, Alfred Bachelet, dont quelques ouvrages ont été joués à l'opéra ou à l'opéra comique.
Jardin sur l'Orange,
naturellement.
D'après la nouvelle de Barrès.
Oui, naturellement. Ensuite, nous avons eu Louis Thirion, qui était un compositeur très distingué de l'école franquiste, qui est disparu depuis quelques années maintenant, et qui était mon prédécesseur à la classe de piano. Il a également fait la classe d'orgue ici au conservatoire de Nancy. Nous avons eu également Marcel d'Outremer, beaucoup plus près de nous, qui a fait valoir ses droits à la retraite en 1968 et qui a eu une activité musicale absolument débordante sur le plan de la diffusion et sur le plan de la création. Comme vous le disiez tout à l'heure, il était très 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 attentif aux compositeurs actuels, français notamment, les a joués lui-même, non seulement à Nancy, mais au cours de nombreux voyages qu'il a effectués à l'étranger. Un autre grand compositeur français et lorrain, il s'agit de Florent Schmitt, qui est né en Meurthe-et-Moselle.
Et naturellement, votre directeur actuel, M. l'Ancien, qui prépare, je crois, un ouvrage lyrique, et puis vous...
Oui, je ne crois pas d'ailleurs trahir un secret d'État, il me l'a dit lui-même, et j'espère que ses nombreuses occupations lui laisseront quand même le loisir de s'occuper de cet ouvrage, car en définitive, un musicien comme l'Ancien a comme vocation de faire de la musique, d'en diriger, d'en composer, et d'envoyer un message.
D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas échappé à ce démon, puisque, je crois, Gaston Bollène, que dût votre modestie en souffrir, vous avez fait créer récemment, ici à Nancy, un ballet qui s'appelle Chronos.
Oui, grâce à Marcel Doutremer.
Et vous avez trouvé le temps de l'écrire?
J'ai trouvé le temps de l'écrire, oui, c'est quand on aime quelque chose, on trouve toujours
le temps à le consacrer. Qu'est-ce que c'est Chronos? Racontez-nous.
Chronos, c'est le dieu du temps, de la mythologie, et je dis que c'est pour moi un personnage considérable dans la conjoncture humaine, puisqu'on parle toujours de l'eau, le feu, et les tempêtes, et on ne parle jamais du temps qui est quand même l'élément le plus terrible de tous.
Et alors c'est un ballet.
C'est un ballet qui met en scène.
Fait pour être dansé. Eh bien, si vous permettez, nous allons en écouter un extrait, car je serais très heureux, à Nancy même, d'entendre un extrait de Chronos qui a été créé dans cette salle Poirel où j'ai tant de souvenirs.
Oui, dans ce monde en folie et sur le point de basculer, quelle leçon je recevais de Gaston Bollène. Ce jeune directeur du conservatoire de Nancy, l'auteur de Chronos, qui semblait ignorer, mais sans doute le feignait-il, le jazz, la pop-musique, la musique électronique, la musique concrète et l'effrayant tam-tam des masses médias comme tamisé par la forêt de haies. Mais dans ma petite géographie d'un voyage en Meurthe-et-Moselle, je voulais remonter aux sources, aller plus outre, et revoir ce beau musée lorrain, l'un des plus beaux de France, avec celui de Moulins, le tapis dans la ville vieille et qui dispense ses trésors dans le propre palais ducal de René II et du duc Antoine. L'une des salles de ce musée, dont le conservateur actuel, l'abbé Chou, se double d'un historien de valeur, m'avait toujours fasciné. C'est la salle consacrée à la vie et à l'œuvre de Jacques Callot. J'avais rendez-vous avec René Thavenot, qui est professeur d'histoire à l'université de Nancy, et je n'ai pas oublié notre entretien. Il restera gravé, si j'ose dire, dans ma mémoire. J'avais le sentiment que, à Nancy, la gravure se portait bien, formait presque une école en soi. Et la première question que j'ai posée à René Thavenot, c'est de lui demander qui était Jacques Callot, et surtout si la présence de Callot en Lorraine correspondait géopolitiquement à une vérité.
Eh bien, je crois qu'il faut dire d'abord que vous avez pleinement raison, que la gravure que Callot représente si brillamment, la gravure est, pourrait-on dire, sans forcer les termes, un art lorrain par excellence. Alors, Callot a vécu à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Il est né à Nancy, à quelques mètres de l'actuel musée lorrain, tout près du palais ducal, en 1594. Et il est mort en 1635, au moment où les grands malheurs de la guerre de 30 ans allaient s'abattre sur la Lorraine.
Et je crois qu'il est enterré d'ailleurs à quelques mètres de nous, puisque nous sommes actuellement au musée Lorrain à Nancy, au musée Lorrain de la vieille ville, enfin oui, au musée oui. Du palais ducal. Il est enterré, je crois, dans la chapelle des Cordeliers.
Mais oui, très exactement.
Il est donc mort très jeune.
Il est mort très jeune, il est mort à 41 ans, et on est toujours étonné lorsqu'on voit l'œuvre gravée, magnifique de Callot, de penser qu'elle était accomplie en si peu d'années.
Est-ce que on peut parler d'un art lorrain au XVIIe siècle? Est-ce qu'il y a des artistes lorrains? Vous allez me dire, ce musée en témoigne abondamment.
Oui, je pense qu'on peut parler d'un art lorrain, et on peut même peut-être aller plus loin et dire que la période qui a été celle de Callot a été, avant ces misères terribles de la guerre de 30 ans, a été peut-être la période la plus brillante de toute l'histoire de la Lorraine. Je rappellerai simplement quelques noms. Jacques Callot a été le contemporain de Déruet, célèbre graveur et peintre, de Bellange, peintre et graveur lui aussi, et du grand Georges de la Tour. C'est une époque d'extraordinaire floraison artistique et littéraire.
Il faudrait peut-être rappeler qu'en France, c'est Louis XIII.
En France, c'est l'époque de Louis XIII.
L'époque
de Louis XIII.
Et en Lorraine, c'est Charles III.
Eh bien, en Lorraine, n'est-ce pas, Jacques Callot a vécu sous le règne de Charles III d'abord, qui est mort en 1608, et puis sous le règne d'Henri II, son fils, qui est mort en 1624, et il a vécu les premières années, les plus belles d'ailleurs, les plus brillantes, de Charles IV.
On peut être surpris par la diversité de l'inspiration de Callot. Bien sûr, il y a des paysages lorrains, il y a des poiriers où d'ailleurs figuraient beaucoup de pendus, je crois. Et puis, il y a aussi des fermes. Callot s'est intéressé à la paysannerie lorraine, qui était assez misérable, je crois. Et puis, il y a toute la période italienne. Enfin, c'est plusieurs vies en une vie. Mais ce que je voudrais que vous nous rappeliez, René Thavenot, c'est comment la vocation est née à cet enfant, car il a suivi, je crois, des baladins.
Il a suivi les baladins, il s'est d'abord initié très jeune à l'art de la gravure, en fréquentant des artisans, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas, de sa bonne ville de Nancy.
Son père était officier.
Très exactement, officier du duc Charles III. Et en 1608, c'est-à-dire très jeune, il avait à peu près 14 ans, à peine 14 ans, il est parti vers l'Italie. L'attraction de l'Italie, n'est-ce pas, toujours très forte, non pas seulement dans l'Europe de cette époque, mais plus particulièrement en Lorraine, il est parti vers l'Italie avec une troupe de bohémiens. Et c'est en Italie, à Rome d'abord, mais surtout à Florence, qu'il a véritablement acquis la maîtrise de son talent. Mais ceci sans oublier jamais l'inspiration lorraine.
Et on peut diviser son œuvre, je crois, en quatre, thèmes principaux. Il y a les thèmes religieux, oui, auxquels, je pense, les graveurs de son époque n'échappaient pas, oui, surtout, étant patronnés par des princes italiens fort dévots, je crois.
Oui, alors pour l'art religieux, n'est-ce pas, je crois que la grande caractéristique de Callot, c'est qu'il a été très inspiré par les franciscains. par les cordeliers, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, dont le couvent était voisin du palais ducal et dont il subsiste aujourd'hui la magnifique église que vous connaissez. Callot avait plusieurs frères qui étaient entrés dans l'ordre de Saint-François et lui-même a toujours vécu au commerce de ces franciscains qui ont véritablement inspiré une partie importante de son œuvre.
Et puis là, il y a les baladins, les musiciens, les saltimbanques, la comédie italienne.
Et bien sûr, et alors je crois qu'à ce propos, n'est-ce pas, il convient de souligner que Callot occupe une place non pas seulement dans l'histoire de la gravure, ce qui va de soi, mais aussi dans l'histoire du théâtre. Car on peut dire que c'est grâce à Callot que certains personnages, comme les célèbres pantalons par exemple, pour ne citer que ceux-là, c'est grâce à Callot que ces personnages de la comédie italienne sont entrés dans le théâtre français. Oui, si bien que Callot intéresse les historiens de la littérature, de la civilisation, autant que les historiens de la gravure au sens strict.
Et puis alors les historiens d'histoire militaire, parce que n'oublions pas alors que Jacques Callot a gravé des cuivres absolument hallucinants dont nous avons ici au musée Lorrain à Nancy les originaux.
Oui.
Qui sont de taille gigantesque pour des cuivres gravés et qui représentent les fameux sièges. Alors, je vais vous demander de nous les énumérer.
Oui, vous avez les trois grands sièges, n'est-ce pas, qui sont absolument extraordinaires par la maîtrise de l'art de la gravure, n'est-ce pas? Le siège de Bréda que vous avez sous les yeux, pas très loin de nous, le siège de l'île de Ré. Et enfin, le siège de La Rochelle. Ce sont de véritables prouesses techniques de la part de Callot.
Il y a toujours l'image d'Épinal qui consiste à dire le Lorrain est un être secret, intraverti, un peu rude, qui crée plus volontiers des maîtres de forge et des soldats et des généraux que des artistes. On est quand même frappé, et ça je suis content de vous rencontrer pour vous en parler, par le fait qu'un Barès n'était bien que sur l'Acropole, que finalement Jacques Callot était enchanté d'être à Rome, et il y a un autre Lorrain très célèbre qui s'appelle Claude Gelée, qui a fait les plus beaux paysages aussi à Rome.
Oui.
Alors, est-ce que la Lorraine serait une terre anti-artistique?
Ah, certainement pas. Je pense que le trait lorrain que vous soulignez est très très vrai, n'est-ce pas? La Lorraine a vu naître énormément d'hommes d'action, d'administrateurs, de grands chefs d'entreprise, mais il y a parallèlement à cela tout un mouvement d'efflorescence mystique qui se manifeste de mille manières. Et c'est peut-être en Lorraine que la réforme catholique de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, donc contemporaine de Jacques Callot, fut la plus brillante dans tous les pays de langue française. Il y a une quantité absolument extraordinaire, n'est-ce pas, de maisons religieuses qui s'implantent, d'œuvres religieuses qui apparaissent à la fois au plan littéraire et dans le domaine artistique. Et alors ça a continué, vous le signaliez tout à l'heure, n'est-ce pas, au XVIIe siècle, avec un homme comme Claude Gelée, qui a été à sa manière un grand esprit religieux, et puis au XIXe, par les frères Bayard, et la colline inspirée, qui en est la transposition littéraire géniale que Maurice Barrès en a donnée.
Vous n'avez pas l'impression que Jacques Callot est mort un peu triste de voir la Lorraine envahie, occupée par la France et par les troupes de Louis XIII. Nous avons découvert, enfin nous savons, les Lorrains sont très pudiques en ce qui concerne le siège de la Motte et la disparition effrayante de cette ville qui était le dernier bastion du nationalisme lorrain, enfin à l'époque de Richelieu et de Mazarin. Il y a une anecdote qui circule sur Jacques Callot et on prétend, je ne sais pas si c'est sérieux justement, j'aimerais que l'historien que vous êtes me le disent, que Callot aurait refusé de graver, car il était, je suppose, ce qu'on pourrait appeler déjà une très grande vedette dans son métier, et refusé de graver l'entrée glorieuse du roi de France, Louis XIII, à Nancy.
Oui, je crois que c'est vrai, et je crois que Callot a même répondu à l'envoyé du roi, n'est-ce pas, qu'il préférait se couper le pouce, c'est-à-dire perdre tous les moyens de son talent de graveur, plutôt que de se mettre au service de l'occupant, car hélas, la France était à cette époque l'occupant, puisque la Lorraine, est-il besoin de le rappeler, puisque la Lorraine avait opté pour la cause impériale et catholique et que le duc Charles IV était passé du côté de l'Empire.
René Thévenot, vous nous avez dit que la vocation artistique de la Lorraine s'était merveilleusement exprimée sous les règnes de Charles III et plus spécialement de Charles IV de Lorraine, notamment avec la personnalité incomparable de Jacques Callot, le graveur sur cuivre. Mais il y a une autre époque, alors qui est très visible, tout au moins dans l'histoire de Nancy, et dans la mesure où Nancy est évidemment l'une des capitales, ou la capitale de la Lorraine, la place Stanislas est un attrait connu du monde entier. Je voudrais pas faire la mauvaise langue, mais il est évident que de même que beaucoup de créateurs, d'artistes lorrains ont trouvé leur inspiration dans les pays du soleil ou en Méditerranée, est-ce que ce ne serait pas méchant de ma part de dire que la seule belle place qui est à Nancy est l'œuvre d'un Polonais?
Eh bien, c'est assez vrai, et il faut dire d'ailleurs que la place Stanislas doit beaucoup à des artistes français ou lorrains, ce qui va de soi, n'est-ce pas, tels que Guy Ball, Sifflet, Jean Lamour, mais qu'elle doit aussi à l'inspiration artistique que le roi de Pologne a apportée de son pays natal. Et les historiens d'aujourd'hui insistent beaucoup sur ce trait d'union entre l'Europe occidentale et celle du centre, dont la place Stanislas constitue un témoignage.
Est-ce que vous voulez dire par là que, de même que Louis XIV s'est intéressé personnellement à la construction du château de Versailles, comme nous en avons de nombreux témoignages, donnant ses ordres à Puget, à Mansart, est-ce que vous pensez que Stanislas Leszczynski s'est intéressé personnellement à l'édification de cet ensemble architectural?
Il s'y est intéressé énormément. Et voyez-vous, la place Stanislas, puisque nous parlons de ça, je crois que nous pouvons ouvrir une ou deux perspectives sur ce sujet. Je crois que la place Stanislas est intéressante à deux titres. Elle est d'abord un témoignage, pourrais-je dire, de la liturgie monarchique. C'est une place faite pour l'exaltation de Louis XV. Et de ce point de vue, elle est comparable à la place des Vosges de Paris ou à la place des Victoires. Mais elle est plus encore. Elle constitue, et c'est là son second intérêt, elle constitue la première grande réalisation urbanistique faite en France ou dans les pays de langue française. Parce que les places comme la place des Victoires, la place Vendôme à Paris ou d'autres semblables étaient des places que l'on pourrait appeler claustrales, c'est-à-dire mises à l'écart du mouvement de la cité. Tandis que la place Stanislas, la place royale, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, la place Stanislas est une place qui a pour fonction d'ordonner tout le mouvement de la cité. Et je me permettrai peut-être de vous rappeler que au moment où la place royale de Nancy a été construite, Gabriel avait commencé à entreprendre la place Louis XV de Paris, que l'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde, et que, ayant connu l'existence de la place Stanislas avec la fonction que le roi de Pologne lui a signée, il s'est rendu à Nancy, a étudié les conceptions de Stanislas et a donné à la place de la Concorde l'image dont on peut admirer aujourd'hui encore la réalisation. Si bien que la place royale, n'est-ce pas, occupe une place non pas seulement dans l'histoire de l'art, je parle de la place royale de Nancy, mais véritablement une place de tout premier ordre dans l'histoire de l'urbanisme.
Est-ce que des artistes lorrains alors y ont participé?
En grand nombre. Le premier d'entre eux est Emmanuel Herré, qui était le premier architecte de Stanislas. Il y eut comme autre artiste Guy Ball, qui était surtout un sculpteur. Sifflet, sculpteur également, et bien sûr le grand ferronnier Jean Lamour.
Oui, alors justement, Jean Lamour, au nom prédestiné, est-ce que Jean Lamour était un artiste typiquement lorrain? Est-ce que le fer forgé est né du sol lorrain, précisément?
Et je crois que Jean Lamour répondait à l'une des vocations artistiques de la Lorraine. Je crois qu'il convient de rappeler que jusqu'à une époque récente, n'est-ce pas, le fer forgé était très en honneur. L'école de Nancy, dont le chef a été Émile Gallet, a donné une manière de renaissance nouvelle comparable à bien des titres à ce qu'avait fait Jean Lamour, comparable mais en même temps différente.
Merci René Thévenot. Et pour revenir à Stanislas et ne pas nous y laisser enfermer, puisque vous avez dit que c'était une place ouverte, je dirais volontiers ce que m'a dit un jour un Suédois de mes amis, ou un Norvégien, l'écrivain Johannes Jorgensen, que j'avais rencontré à Assise alors que j'étais allé le rejoindre les pieds nus et en sang. Il m'avait dit « Ah, vous êtes lorrain, vous habitez Nancy. La place Stanislas, m'a-t-il dit, m'a dit Johannes Jørgensen, c'est vraiment un décor pour Mozart.
Qu'il n'y vint, le soir au clair de lune, que marquis tout poudré, bergère de Watteau, d'amant, non de brebis, conduisant le troupeau, où sont des turcarets chéris de la fortune. Capitaine du roi, sénéchal du château, irait là courtiser comtesse blonde ou brune. Les chaises à porteurs partiraient, une à une, au rythme balancé de gondoles sur l'eau. Et dans les entresols, de belles brelandières feraient de nos écus danser le menuet. Peut-être on ouirait des pavanes altières. Plus tard, la torche en main, les bons archers du guet, comme des feux follets dont la lueur s'agite, allumeraient des ors aux grilles d'amphitrite.
Ce sonnet de René d'Avril, sur la place Stanislas à Nancy, extrait de Procession dans l'âme, n'est pas le seul poème qui fut inspiré par la place Stanislas. Il me suffit de fermer les yeux pour qu'à côté de la silhouette un peu voûtée de Léon Malgras, alias René d'Avril, discret poète lorrain, modeste, effacé, éclate la truculence de Robert Laverny, qui est à la fois notre Verlaine et notre Prévert. Robert Laverny, croisé, entrevu dans tant de mauvais lieux, qui fait ici partie des meubles, comme la fontaine de Neptune ou comme celle d'Amphitrite.
Or sur l'Is, ô soleil sur la neige, la place Stanislas, royale en son cortège, d'amour, de mascarons, de roses à recoins, d'hirondelles, franchit le siècle, et ses trompettes jettent la gloire aux quatre vents de nos louis. Oui. Et la place d'Alliance, est-elle point une robe de Marie-Antoinette, un instant arrêtée au contrepoint d'une gavotte dont le doux crin-crin n'annonçait guère aux paysans lorrains si l'âdre de ses sous, de son sang économe, la déclaration des droits de l'homme, la guillotine, la bérésina, etc. Ni les fifres futures de l'outre-Rhin.
Marcel Martin, le maire de Nancy habite place Stanislas. Et vous avez la gentillesse de me recevoir sous le portrait du roi Stanislas. C'est une belle place que la place Stanislas.
Je crois que c'est une des plus belles places, disons, de France, pour ne pas être trop gourmand. Et nous nous efforçons actuellement de lui redonner son lustre d'antan. Vous tombez bien, cher ami. Nous avons eu le grand plaisir de pouvoir interdire le stationnement sur la place Stanislas des voitures automobiles, car vous savez que jamais les tôles neuves n'ont fait bon ménage avec les vieilles pierres.
Et j'aimerais bien savoir, sur ce plan des loisirs, sur le plan de la culture générale, sur le plan de la vocation artistique de la Lorraine, quels sont vos projets pour cet été ?
Nous nous efforçons tout d'abord, vous le savez peut-être, de multiplier les maisons des jeunes et de la culture, surtout dans les quartiers qui sont les plus isolés. Je pense notamment au quartier du Haut-du-Lièvre, où nous construisons en ce moment une maison des jeunes et de la culture, dont nous espérons beaucoup, précisément parce que ce quartier est isolé et constitue une sorte d'entité, une sorte de ville dans la ville, pour l'équilibre de la jeunesse duquel nous sommes parfois un peu inquiets.
Parmi les activités nouvelles de la ville de Nancy, il y a un festival qui vient, je crois, de fêter d'ailleurs son 4e ou 5e anniversaire au plus maximum, qui n'est peut-être pas encore atteint d'ailleurs son point de maturité, qui a été créé par Jacques Lang et qui est le festival du théâtre international. Ça fait beaucoup de bruit.
Je pense que ce bruit est justifié. Le dernier festival a été un grand succès, à la fois en ce qui concerne la jeune génération et presque, je dirais, l'ancienne génération. Pour la première fois, il y a un mouvement de la population ancienne de Nancy vers le festival. Je crois qu'il faut, dans cette affaire, être très réaliste. Alors qu'on a l'habitude de dire que le théâtre est mort en France, on constate tout d'un coup, avec une nouvelle formule, que non seulement le théâtre principal est rempli, mais encore que pendant des jours et des jours, dans la ville, ont fonctionné 5 chapiteaux qui, tous les soirs, étaient pleins, non seulement étaient pleins, mais il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pu avoir de place. Donc, le théâtre n'est pas mort, mais à la seule condition de faire le théâtre qui convient à la génération.
Alors, sur le plan des arts plastiques, l'école de Nancy, bon, c'est de l'histoire. Mais je vois que sur les murs de la ville dont vous êtes ici le premier magistrat, un nom illustre refleurit qui est celui de Prouvé. Est-ce que ce Jean Prouvé, qui expose jusqu'au mois de septembre à Nancy, est parent au Prouvé de l'école de Nancy qui partagea sa gloire avec Gallet, Majorelle ?
Bien certainement. Et il a cette originalité extraordinaire, lui aussi, d'avoir était le champion d'une nouvelle architecture. En réalité, Prouvé, c'est l'homme du métal. Et vous avez pu voir que dans Nancy même, les nouvelles constructions ne ménageaient pas le métal.
Il a donc presque succédé à Mienville, que nous avons connu.
Oui, certainement, avec des vues plus modernes.
Vous êtes parti d'ailleurs du jury international qui vient de primer le lauréat des Halles à Paris. Marcel Martin, quand on dirige une ville comme Nancy, qui a maintenant combien d'habitants ?
Nancy même fait 120 000 habitants, mais l'ensemble d'agglomération approche les 300 000.
Est-ce qu'il vous arrive de vous pencher comme moi sur votre jeunesse, qui n'est pas très lointaine d'ailleurs, et de vous dire qu'il y a peut-être là-dedans des poètes, des écrivains, des créateurs, et vous pensez à eux quelquefois ?
Bien sûr qu'il y a des poètes, des artistes, des musiciens. Je crois d'ailleurs que dans toute génération, il y a peut-être la même proportion de poètes, d'artistes et de musiciens, et que ce qui fait au fond les grands siècles, c'est la possibilité pour ceux-là de s'exprimer. Il y a des périodes qui sont très dures, au cours desquelles les poètes, les artistes doivent vivre d'autre chose que de leur plume ou de leur art. Alors à ce moment-là, bien entendu, l'art tombe. Mais les grandes périodes sont celles dans lesquelles la vie sociale est organisée de telle façon que tous ces créateurs peuvent vivre et peuvent vivre de leur art. Alors ce qui serait souhaitable, c'est que la génération actuelle puisse précisément favoriser cette éclosion et ce développement d'un tuf qui existe, d'une réalité qui existe, qui est une réalité poétique et artistique sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Alors ici, dans la ville, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous essayons de susciter des créations au théâtre. Nous encourageons, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Festival international du théâtre universitaire. Au point de vue du conservatoire, nous avons fait un très très gros effort et nous entendons bien le continuer. Et puis, nous favorisons toutes les expositions, nous favorisons tous les efforts, toutes les initiatives. En réalité, je crois qu'une municipalité ne peut faire qu'une seule chose, c'est créer les conditions de développement à la fois de la vie économique et de la vie culturelle.
Ce qui est énorme. Alors,
je ne pense pas, voyez-vous, que on puisse forcer les talents. Mais je crois qu'il est nécessaire pour les pouvoirs publics de faire en sorte que les talents puissent éclore librement et normalement.
Et je crois que dans ce domaine, l'histoire de la Lorraine et l'histoire de Nancy sont très édifiantes.
Et puis je crois qu'elles sont même très très liées, quoi qu'on en dise.
Elles sont très liées. Jean Thiry, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie de Stanislas à Nancy et m'avez donné rendez-vous dans le salon carré de l'Hôtel de Ville, place Stanislas. Je suppose qu'il y a une raison.
Oui, je vous ai demandé de venir dans le salon carré parce que lorsque notre fondateur, le roi Stanislas, a voulu trouver un local pour son académie, il a construit le salon carré, la plus belle salle de l'Hôtel de Ville, pour que nous puissions y tenir nos séances.
Vous en avez été délogé?
Nous n'avons pas été délogé, non. Nous n'avons pas été délogé. Nous tenons nos séances ordinaires dans un local qui se trouve à la bibliothèque municipale de Nancy, dans une salle qui est petite et qui nous suffit pour nos séances ordinaires. Mais en réalité, nous avons toujours la disposition du salon carré pour tenir nos séances publiques.
Alors, pour en venir à la fondation de cette Académie Stanislas, qui est très connue en Lorraine et très appréciée, très estimée, et qui comporte d'ailleurs de nombreux correspondants étrangers, qui sont même hors de Lorraine, soit des enfants prodigues, soit des hôtes illustres que vous voulez bien accueillir. Qu'est-ce qui a présidé dans l'esprit du bon roi Stanislas? Je dis le bon roi Stanislas, je confonds avec le bon roi René, mais il était bon aussi.
Le roi Stanislas, n'est-ce pas, a voulu qu'il y ait une académie où se rencontraient les esprits distingués de la province ou qui avaient des liens avec la province. Cette idée lui est venue à la cour de Lunéville et il a fondé l'académie de Stanislas en l'année 1750, avec des statuts très précis qui sont encore ceux qui nous régissent aujourd'hui. Quelle séance publique tenons-nous? La plus importante d'hiver est une séance publique au cours de laquelle sont distribués les prix littéraires, les prix artistiques, les prix de dévouement, le grand prix de l'Académie de Stanislas, ainsi qu'un certain nombre de bourses destiné à des étudiants.
Est-ce qu'on peut dire, Jean Thiry, vous qui êtes donc secrétaire perpétuel de l'Académie Stanislas, que cette Académie est un petit peu comme la conscience et surtout la mémoire de la Lorraine? Car je crois que finalement vous êtes très attaché aux valeurs traditionnelles de ce que nous appelions entre nous la duché. Oui. Et j'en veux pour preuve cet ouvrage que vous avez conçu, j'allais dire collectivement, qui est signé d'un seul auteur, Académie Stanislas, et qui est un hommage de la Lorraine à la France, publié donc il y a quelques années, au moment du bicentenaire en 1966 de la réunion de la Lorraine à la France. Mais est-ce que c'est bien conforme au désir de votre vénéré fondateur?
Ah, certainement, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait que son Académie soit, si vous le voulez, le premier salon de la province. Mais il ne devait pas s'y trouver seulement des littérateurs ou des professeurs ou des philosophes, mais aussi des artistes, des hommes de science. Et c'est pour ça que parmi nos confrères, il y a un grand nombre de professeurs, de savants, et qu'il y a également beaucoup d'artistes. Et nous tenons beaucoup à avoir des artistes parmi nous pour précisément que notre académie soit une philosophie très exacte, un reflet très exact de l'ensemble de la Lorraine.
D'ailleurs, n'y avait-il pas Voltaire, lui-même qui faisait partie de l'Académie des
Voltaire
Stanislas.
A fait partie de l'Académie. Montesquieu a été, ainsi que Boufflers, ont été parmi les fondateurs, Monsieur Tressan, ont été parmi les fondateurs de l'Académie de Stanislas.
Mais vous n'admettez pas les femmes et vous auriez refusé l'entrée de votre Académie à Madame du Châtelet, peut-être. Quand Madame du Châtelet est morte, Monsieur le Baron, est-ce que l'Académie était fondée?
Non, l'Académie n'était pas encore fondée. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le moment très brillant qui a existé au moment de la cour de Lunéville a donné au roi Stanislas l'idée de fonder l'Académie. Et il faut remarquer que tous ceux qui se trouvaient à Lunéville à ce moment-là, vous avez cité Voltaire, nous avons parlé de Montesquieu, de Boufflers et de bien d'autres, formaient un groupe extrêmement brillant, et c'est l'état d'esprit de ce groupe que nous essayons encore aujourd'hui de maintenir de notre mieux en conservant l'esprit lorrain intégré dans la nationalité française.
Et là, il faut peut-être rappeler, Monsieur le Baron, que c'est précisément à la mort de Stanislas que la Lorraine est devenue française par un jeu d'écriture prévu par le gendre du roi Stanislas, qui n'était autre que Louis XV.
Parfaitement. Pour une fois, la France a profité d'un mariage. Ça ne lui arrive pas souvent. L'Autriche était plus habile que la France dans cet esprit-là. Et nous sommes très heureux que l'option ait été faite et que la Lorraine ait été intégrée une façon définitive à la France.
Intégration de la Lorraine à la France, dont nous venons de célébrer, Jean Thierry, le bicentenaire il y a 5 ans. Il y a donc exactement 205 années que votre fondateur, Stanislas le Bienfaisant, quittait pour la dernière fois son château de Lunéville pour être inhumé à Nancy.
Précédé de 100 pauvres, accompagné par tous les gardes du corps, leurs officiers et leurs troupes, à la lueur des torchères, le cortège s'ébranle.
Dernière illusion de la patrie lorraine va descendre dans les caveaux de Bon Secours à la barrière de Nancy. Par le jeu d'un cierge qui s'éteint, d'une âme qui s'envole, du triple et pesant cercueil d'un prince étranger, par la grâce de Dieu, roi de Pologne, grand-duc de Lituanie, de Russie et de Prusse, duc de Lorraine et de Bar, marquis de Pont-à-Mousson, comte de Vaudémont, de Blamont, de Saverne et de Salme, qui, dans la neige fondue et glacée d'un matin d'hiver 1766, glissait lourdement dans le placard d'une sacristie, par cette étonnante trappe où tous les comédiens que nous sommes, avec ou sans couronne, finissent par tomber, s'accomplit l'intégration totale de la Lorraine à la France.
Cet extrait des Grands Chevaux de Lorraine, le spectacle Son et Lumière du château de Lunéville, que j'ai eu l'honneur d'écrire il y a déjà quelques années avec le compositeur Jean-Wilfried Garrett, et où vous avez reconnu les voix de Alain Cuny et de Michel Bouquet, devait me rappeler que la Lorraine pouvait paraître de quelque manière défavorisée par son climat, son isolement, ses structures industrielles, sur le double plan du tourisme et des loisirs, et c'est dans cette perspective que j'ai tenu à rencontrer les deux animateurs culturels d'un nouvel organisme de création et de diffusion populaire qui tente de désenclaver la Lorraine de son bel isolement.
Jean Thibault et André Evina, merci de me recevoir. Jean Thibault, je crois que vous animez ici, en Lorraine, un groupe qui s'appelle Lorraine Loisirs. Je viens d'arriver sur cette place Carnot, où il y a d'ailleurs un trou béant, à la place de la foire qu'ils aiment et délices quand j'étais petit. Qu'est-ce que c'est que ce trou ?
Bien, ce trou, je pense que c'est tout simplement l'avenir. Il s'agit simplement de creuser, de faire des parkings.
De faire un parking. Oui, place Carnot.
Oui, de place Carnot, sous-sol d'ailleurs. Et puis après, il est question de revenir à l'origine de la place.
Devant l'ancienne faculté.
Et devant l'ancienne faculté. De toute façon, il faut que ces parkings soient terminés, d'après ce que je sais, pour permettre à la foire de continuer. Donc, c'est simplement... C'est l'avenir matériel de notre époque.
C'est ça. Mais en tout cas, cette foire, moi, me rappelle bien des souvenirs, car finalement, quand j'étais petit, ici, c'était un des rares spectacles permanents et gratuits qui enchantait ma jeunesse, quand nous faisions l'école buissonnière. Qu'est-ce qui s'est passé en Lorraine depuis que je l'ai quitté ? Je crois que ce groupe que vous animez, cette association que vous avez fondée, correspondait en fait à un réel besoin. Auprès d'abord du public, et puis j'imagine aussi auprès des créateurs.
Oui, il est exact. On reproche, je crois, beaucoup à la province, et en particulier à la Lorraine, de ne pas être en parallèle avec Paris. C'est faux, je crois, même c'est très faux, puisque notre but, nous, c'est de diffuser non seulement à Nancy et limitrophes, mais dans toute la Lorraine, puisqu'on couvre le département de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, bien sûr, de la Meuse, des Vosges, et on diffuse autant que possible des conférences, des concerts, même de la grande musique.
En milieu urbain, en milieu industriel et en milieu rural ?
Et en milieu rural. J'avais dernièrement une conférence avec laquelle on a fait un essai, qui était un sujet, je crois, tabou sur la drogue, par M. Borg. Et je lui avais donné trois endroits très différents, puisqu'il s'agissait de faire dans un milieu à l'école de l'agriculture de Château-Salin. Ensuite, il a été à Villerue, dans un milieu purement industriel, puisqu'avec des mineurs. Et ensuite, il a fait au Crous de Nancy, dans la banlieue de Nancy, avec des étudiants. Il avait donc les trois milieux, et il était enchanté. Pour lui, c'était ravissant. Il ne pensait pas qu'en province, on pouvait trouver un public aussi différent et réceptif.
À qui vous adressez-vous ? Aux jeunes, spécialement ? Ou pas forcément aux jeunes ?
Pas forcément aux jeunes, non, absolument pas. Nous adressons à tous les publics. Mais il est un fait qu'à l'heure actuelle, on a été obligé de se reconvertir un petit peu parce qu'il faut appeler les jeunes. Il y a une masse de jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est l'ouverture. Et il y a peut-être la difficulté, c'est qu'il faut aller beaucoup à eux. C'est tout. Autrement, si on fait cet effort, et la réussite est au bout.
Et alors, vous avez créé une chose absolument extraordinaire dans la cathédrale de Toul, qui est une des plus belles églises de la Lorraine, enfin de cette région de la Lorraine, au confluent de la Meurthe et de la Moselle. Et dans cette cathédrale de Toul, vous avez créé un oratorio de Händel, je crois, ou de Haydn.
De Haydn, monsieur. Oui, mais c'est exact. Mais alors ça, c'est plus tout à fait mon domaine pur, c'est le domaine de mon ami monsieur Epina. Et c'est M. Epina qui va vous parler de cette nouvelle association qu'on a créée, d'ailleurs en groupement avec d'autres associations.
C'est ça. Et alors, André Epina, cette association s'appelle Artem. Je voudrais bien savoir ce que cache ce sigle.
Oh, ce sigle ne cache rien à proprement parler, sinon qu'il signifie littéralement Association pour le développement des arts et de la culture dans le département de Meurthe-et-Moselle. Nous avons voulu, en créant cette association, notamment avec notre ami Thibault de Lorraine Loisirs et d'autres animateurs culturels, regrouper nos efforts autour d'œuvres qui ne pouvaient pas être montées ni par les uns ni par les autres. Je donne par exemple les concerts jadis qui se donnaient à Saint-Nicolas-de-Port. Quand je dis jadis, ça remonte à une dizaine d'années. Mmh. Je ne sais plus par qui ils étaient organisés. Ils étaient très suivis, notamment par le public nancéen. Il s'agissait d'oratorio et cela avait cessé. Donc on avait l'impression qu'il y avait un vide. Et nous avons décidé de reprendre ce que j'appelle cette tradition de Saint-Nicolas de Port, de ces grands concerts de Saint-Nicolas de Port, où, dans la magnificence de nos cathédrales de la région, que ce soit Toul, que ce soit Saint-Nicolas, on peut donner de très grandes œuvres avec de très grands artistes.
Oui, André Épinard, j'ai sous les yeux un article de l'Est Républicain où notre ami Yolande Thierrier souligne l'exemple, ou l'exemplarité, je ne sais pas si le mot est très joli, de votre expérience. Nancy, Metz et Strasbourg donnent l'exemple, la vie culturelle peut, elle aussi, être régionalisée. Et elle ajoute, grâce à la collaboration de trois villes, Nancy, Metz et Strasbourg, des milliers de personnes ont pu entendre la création de Hind, 200 exécutants, dans quelques-uns des plus beaux édifices religieux de la région. Mais vous me disiez tout à l'heure que pour vous, la culture et l'économie, ça se rejoignait.
Oui, je crois que c'est, dans le fond, la philosophie de cette association, de ce mouvement que nous voulons lancer. Car je pense que nous ne pourrons pas retenir des hommes sur une terre si, en dehors de leur travail, nous ne leur apportons pas quelque chose de plus. Car si les hommes travaillent, c'est tout de même pour avoir quelques joies. Et c'est ce genre de joie que nous essayons de leur apporter, Thibault et moi-même.
La vocation artistique de la Lorraine, où l'a mieux rencontrée aussi que dans ses écrivains et ses poètes. Et si la mine, le monde ouvrier, le fer, le sel, la soude, le charbon ont leur chantre, on oublie un peu vite tant la gloire des maîtres de forge et des grands soldats est éclatante, la Lorraine étant la province française où il y a le plus de maréchaux au mètre carré. On oublie un peu vite qu'elle est aussi terre de paysans. Ce n'est pas Henri Berlet qui me contredira. À la fois rude et secrète, follement patiente comme toutes les marches, et tirant sur sa laisse. Oui, tirant sur sa laisse, comme l'exprime admirablement dans la flûte d'ébène Léon Tonnelier, qui figure aux côtés de Charles Guérin, de Stanislas de Goïta, de Maurice Potcher, d'André Spire, de Pierre Xardel, de Pierre de Rosière et d'Émile Inzelin dans l'anthologie des poètes de Lorraine du regretté Paul Dimoff et de Marie-Jean-Pierre. Un Léon Tonnelier, né en 1874 à Nancy, rue des Quatre Églises, et qui n'eut jamais pour tout bagage que son certificat d'études.
Certes, je ne suis pas de ceux qu'on emprisonne du cercle étroit des horizons. Enclore ainsi la vie au seul champ qu'on moissonne, c'est borner le sourire immense des moissons. Au-delà des coteaux et du val, où nous sommes heureux et fiers d'être lorrains, sol, je t'espère encore fertile à d'autres hommes qui vont taillant la vigne et semant de bons grains. Vers mon cœur prompt, afflue un sang lourd de révolte, au seul soupçon qu'en plein zénith, le clair soleil s'épuise à mûrir ma récolte, et que la fin commence où mon sillon finit. Cependant, je t'adore entre toutes, parcelle de franche et vive humanité, qui, sous un ciel léger, au bord de la Moselle, groupe de clairs hameaux autour de ma cité. Je vous aime, forêt, où ma jeunesse, éprise de libre amour et d'art divin, s'est livrée aux frissons odorants de la brise, telle une fleur ses feuilles au penchant du ravin. Je vous aime, cours d'eau, qui dans vos flâneries êtes un labeur incessant. Cèpes, blé roux, sapins bleus, floraison des prairies, humble grange lorraine où veille un paysan. Je vous aime, et le soir, quand la forge rougeoie, quand l'âme ardente du métal dicte un devoir pénible à des êtres sans joie, je t'aime en leurs efforts, ô mon pays natal. Toujours cher à mes yeux, même quand tu m'attristes d'espoir lointain et décevant, mon cœur prompt à vibrer s'émeut de tes artistes, et mon esprit païen a pour Dieu tes savants.
Après cette évocation de Léon Tonnelier, qui fut l'un des très bons poètes lorrains du début de ce siècle, je n'aurai garde d'oublier dans ma petite géographie celui qui fut le sourire de notre grisaille et l'or de notre cendre, l'un des derniers grands écrivains folkloriques de notre patois, tel qu'on le parle encore dans le Xaintois, pays des Mirabelles, le chansonnier Georges Schepfer, qui semble sorti vivant des paysans de chez nous, vu par Jean Scherbeck, caricature sans complaisance ou portrait sans retouche. Avant de réécouter « Notre Parisienne est arrivée » de Georges Schepfer, je vous propose d'entendre, ou plutôt de humer, de respirer la beauté lorraine que dans l'assiette à fleurs, René d'Avril a traité comme une nature morte de Georges de Latour.
Le jardin tout entier a franchi la fenêtre avec ses choux luisants, vernis par l'arrosoir. Quand ton odeur d'été puissamment nous pénètre, ô mai fumant, dressé comme un haut reposoir, beau sacrifice offert à l'appétit robuste, tous les fruits de la terre en un même fumet. Tu sembles, sur nos plats lorrains, casquer un buste antique, avec cimier de lard faisant plumet. À ton charme, ajoutons la saucisse brûlante, le jambon suspendu dans l'âtre large et noir, pour mieux remercier la nature opulente qui se prodigue à nous du matin jusqu'au soir. Et, devenu plus lourd sur le bord de la chaise, nous entendrons, flattés par l'arôme indulgent, en buvant du vin gris ou du 93, l'horloge nous chantait l'heure au timbre d'argent.
Notre Parisienne est arrivée, c'est Nette Lorraine, c'est une paysanne qui parle. Notre Parisienne est arrivée, mais oui, Madame Belot, depuis 2 jours, jamais qu'elle est belle, notre Gustavie. Je ne voulais pas croire que c'était ma fille quand elle a descendu de l'auto. Mais oui, son monsieur l'a amenée en auto. Oh, il a eu de la peine de trouver une si bonne place, hein. Et moi qui ne voulais pas la laisser partir à Paris, voyez. C'est un vieux garçon, riche comme Crésus. Il a fait fortune en vendant de tout et de rien. Des autos, des maisons, des chevaux, des cochons, des strocs américains. Il n'a pas encore fait faillite. Et il n'a été inquiété qu'une fois par la police. Oh, c'est un malin saint, chalet. Mais un brave homme tout à fait, le cœur sur la main, pas fier. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est bon, tu m'as dit, soyez tranquille pour votre fille, tu m'as dit. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, à votre Ginette. Il l'a baptisée Ginette parce qu'il dit que c'est un nom plus à la mode que Gustavie, qui dit. Oh. Je n'ai pas toujours roulé auto, qui dit. Et je sais ce que c'est que d'avoir été chez les autres. Oh, gna, gna, gna. Il serait encore valet de chambre s'il n'avait pas su faire que m'a raconté la Gustavie. Il nous a embrassés tous comme du bon père avant de partir. Et il reviendra dans 15 jours pour ramener encore notre gaillarde en auto. La Vénarte, elle a été vite assez gazée, hein. Par exemple, elle n'a pas été longue non plus pour mettre tout en dessous de chez nous, la mandrine. Et ça ne me va pas, moi, ça. Non, 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 non. Rien n'est plus assez bien pour elle, vous pensez. Entrez donc, Madame Belotte, vous verrez les belles affaires qu'elle nous a rapportées. Allons, bon, la Blanque qui fait danser tout notre monde avec le sacré phonographe là qu'elle leur a donné. On n'entend plus que ça toute la journée. J'en ai la tête cassée, moi. Arrête-toi un instant, ton perroquet dans Gustavie, et montre plutôt à Madame Belotte tous les affutiaux que tu voudrais que je me mette pour être belle. Elle est folle, ma pauvre Madame Belote. Regardez voir la belle robe pervenche, là, en crêpe Georgette, qu'elle dit. Non, mais vous voyez une grosse dandan comme moi, avec l'espèce de chemise trop courte, là, en pur d'oignon. Oh, j'aurais l'air d'une enfant de cœur, moi. C'est bon pour toutes les jeunesses d'aujourd'hui qui sont comme des planches à repasser, hein. Avec ça, elle voudrait que je mette les bas de soie crevettes là et les petits souliers en peau de serpent que voilà là. Ah, ben, j'aurais vite une entorse. J'ai pas l'habitude des échasses, moi. Qu'est-ce que veut ma pauvre Gustavie? Ça ne me changera pas, non. T'auras bon faire, je n'enlèverai jamais mon corset cuirasse, non. Ni ma chemise à manches en toile qui gratte, non. Ni mon pantalon fendu en pilou festonné, non. Ni mon gros jupon en rouge flanelle, non. Pas plus que mon caraco en jersey qui me tient si bon au chaud et ma jupe à la mode de la mer gigogne, comme te dis. Mais je grelotterai toute la journée avec tes combines et tes sous-ventrières, non, tes soutiens-gorge en toile d'araignée. C'est comme le chapeau là. Tu ne penses pas que ma grosse caboche pourrait rentrer dedans? C'est bon pour ta tête de moineau, j'ai des cheveux, moi. Comme la belle Éléonore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. T'as déjà fait couper la moustache de ton père à la Charlot, et c'est du propre. Mais moi, tu ne me feras pas un tronc de la garçonne. Ah non alors. Mais elle a bon cœur tout de même, la Gustavie, elle n'a oublié personne. Regardez voir encore le beau sac à main là pour sa petite sœur avec la glace. Et tout le tralala pour se mâchurer le museau. Un cinéma pour le gamin. Le sapré phonographe là pour son grand frère. Un briquet électrique pour son père. Et un évaporisateur pour moi, je vous le demande. C'est trop. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, hein. Oh, joy. Et elle dit qu'elle nous enverra une petite citron pour nos étrennes pensées. Et elle veut nous faire mettre le téléphone. Ah, ben non, ça alors, nous n'en voulons pas de la mécanique là chez nous. Non. On est déjà bien assez espionnés comme ça par ses voisins, c'est bon. Et pourquoi pas la TSF pendant que tu y es? Ah, tu nous agaces avec toutes tes manières, toutes tes artistes, c'est vrai. Tu n'as plus que ça dans la bouche maintenant, la TSF. Ouh, la radiosti, la radiola, il ne manquerait plus que ça pour devenir tout à fait enragé. On en a bien trop de la TSF. Les pecnards l'ont installé chez eux à côté. Alors maintenant, toute la journée, on entend Bistinguette chanter la Valencia ou bien « Ah, qu'il était beau, mon village, mon Paris, mon cher Paris. » Ça te fait rigoler, toi, Gustavie, te t'en lasse pas de la rengaine, là, oh, là, là. Te nous bassine à la fin d'abord, je vois bien que tu ne te plais plus avec nous. T'es trop chic à présent, ça après plein bêche. T'as tout le temps le nez fourré dans du roman feuilleton. Ou bien t'es là de frotter les ongles, que je te frotte et je te refrotte. T'as mes mules toupées de vouloir frotter les miens. Oh, ma pauvre petite, eh bien, te le fera pas la police chez nous. Non, nous n'avons pas besoin d'un sergent-major. Et puisque t'es nice comme un sac de puce, eh bien, t'as qu'à te retourner d'où ce que te devient. Mais tu me feras le plaisir d'abord d'en mettre en ordre tout ce que t'as bousculé chez nous. C'est un vrai champ de bataille, ma pauvre Madame Belote, où une vache ne retrouverait plus son veau. Un peu plus, elle aurait enlevé le bois de lit pour mettre le sommier par terre. C'est la mode, qu'elle dit, avec des coussins. Non, mais nous sommes pas chez Abel Fatma ici, ma fille. Et surtout, ta dispute de ménager les fromages qui sèchent sous le lit, ou sans ça, t'auras affaire à moi. Il n'y a pas de meilleur endroit, voyons. Je vais penser, mademoiselle réclame une baignoire. Elle dit que ça lui manque, qu'elle a l'habitude de se tremper tous les matins. Mon Dieu, donc, ma pauvre enfant. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour que tu prennes des mauvaises habitudes. Et ta pudeur, dont est frontée, hein? Où est-ce qu'on en serait s'il fallait seulement se laver les pieds tous les jours, voyons? Il est bien temps de se droguer quand on est malade. Comment? Il y a une toilette dans la chambre. Mais bien sûr qu'il y a une toilette dans la chambre. Et une belle garniture en faïence à fleurs encore. Le pot de chambre pareil et tout et tout. Mais c'est pas pour s'en servir de la toilette là. C'est pour la parade. Il n'y a qu'une fois que Monseigneur l'évêque s'en a servi quand il a vu pour la confirmation. Eh bien, si jamais tu te maries, tu seras bien contente de la trouver pour ta nuit de noces, la toilette là. R.A. En attendant, tu feras comme nous. Tu viendras te débarbouiller à la cuisine. Sur la pierre en haut. Et puis je te le dis encore une fois, ma pauvre garce, si l'hôtel n'est pas à ta convenance, eh bien t'as qu'à prendre tes clics et tes claques et aller retrouver ton beau mosque dans ton nouveau village. Tu sais, celui que tu chantes si bien. Oh, qu'il était beau, mon village, mon Paris, mon cher Paris.
Étrange paradoxe que celui de l'âme lorraine où cohabitent Georges Schepfer et Pierre Schaeffer, Charles et Eugénie Guérin, Louis Bertrand, Marcel Arlan et Gabriel Bastien-Thiry, qui vient d'obtenir le prix Erckmann et Chatrian. Barrès l'a dit, il y a la plaine et la montagne, un mélange d'extrême réalisme et de mysticisme, quelquefois dépravé, comme ce fut le cas récemment pour le curé du Ruf ou le mage de Marsal. Inexplicable pour qui ne connaît pas mon pays. C'est encore une fois à la plume de Robert Laverny, qui nous est heureusement revenu de déportation, que je demanderai d'évoquer par la voix de René Clermont Sillon, la colline aspirée.
Mon âme flotte au vent gris-perle de Lorraine, lequel, rageusement, persifle à vos démons et lamente en Sillon. Inespéré, une éclaircie, et sur la plaine, trois fines lames d'or du ciel venues, scintillantes, saluent. On voit l'avoine fuir, les peupliers frémir, un être pourpre orchestre la verdure. Délicieux, un long soupir comme d'amour nous enveloppe. Hélas, guère il ne dure, car déjà, gris et noir, le ciel rallie notre mélancolie.
Ce vent gris perle de Lorraine, qui fait frémir les peupliers et fuir l'avoine, personne n'en a jamais souffert davantage que Léopold, l'un des trois frères Bayard, le prêtre maudit de Maurice Barrès, dans son roman « La colline aspirée », brisé par les grands évêques de Nancy et de Toul, qui se servaient de leur crosse comme d'une trique, et pour qui le retour aux sources n'était que celui de l'enfant prodigue.
Au milieu du plateau, à l'orée du bois de Plémont, et non loin de la croix érigée par Marguerite de Gonzague, on trouve une lande où les bergers disposent sur l'herbe rare, pour leur jeu, des pierres dont les amoncellements rappellent les cromlechs de Bretagne. Sur un bois de pins familier aux oiseaux de nuit, des pins d'un noir presque bleu, le vent gémit, et à l'écart, dans un isolement qu'on dirait volontaire, un vieux poirier se dresse, âgé peut-être de 300 ans, et que j'ai lieu de prendre pour un arbre pendoret. Il commence à se faire très rare, ces arbres, choisis pour servir de gibet parmi les poiriers sauvages les plus robustes et les plus hauts placés de la seigneurie, et qui formaient autrefois un des éléments officiels du paysage lorrain. Callot les a souvent représentés avec leurs fruits. Les services du vieux poirier de la colline sont oubliés des nouvelles générations, mais des corbeaux, non. Ils viennent toujours en grand nombre se poser et croasser sur ses branches. Par un temps bas, sur cette lande, il y a du mystère. Léopold s'y complaisait. Il y retrouvait ses grands pressentiments d'un nouvel ordre du monde qu'il avait eu à Tilly, quand il parcourait avec son maître Vintras le plateau qui domine la riante vallée de la Seule, un plateau où des petits bois encadrent des labours, un lieu agréable et bucolique, et bien que peu éloigné du village, d'une solitude intense. Impossible de rêver un endroit plus éloigné du grand aspect austère de Sion. Et pourtant, les deux paysages adressaient les mêmes discours aux sombres promeneurs. Là-bas et ici, le Dieu de miséricorde et de vengeance était de la même façon sensible à son cœur. C'est auprès du vieux poirier pendret et de la sombre pinède que Léopold, dans ses magnifiques concerts du dimanche sur la montagne, trouve le chant liquide, la cantilène la plus suave et la plus immatérielle. C'est ici qu'une mélodie s'élève de la masse symphonique. Le pontife franchit les degrés sur l'échelle invisible et de motif en motif s'élève au monde des esprits. Nous ne rencontrons plus de fées au bord des fontaines ni de fantômes sur les cimetières. Pourtant, ces esprits flottent toujours sur leur domaine, et nous les verrions encore si notre âme avait reçu l'éducation appropriée. Pour Léopold Bayard, au centre du mystérieux univers, la colline est peuplée d'êtres surnaturels. Il les appelle les anges. Il perçoit leur présence invisible à la traversée du bois de Plémont, ou s'il respire la fraîcheur des trois sources. Et quand, du fond de son âme, s'élèvent des rêveries non influencées par sa raison, il ne doute pas que ce ne soit les voix des messagers aériens, avant-coureurs de l'armée réunie pour la délivrance prochaine. Voilà ces vengeurs qui s'assemblent. Le visionnaire assiste à la mobilisation de ses alliés célestes. Il contemple les phalanges divines. Il assiste au conseil des chefs. Il glorifie les ordres de Dieu. Et le soir, après ses grandes randonnées, Léopold, de retour chez lui et attablé devant une table pauvrement servie, raconte son après-midi, passé au milieu des cohortes angéliques, avec des détails tout plats et un accent patois, comme il ferait le récit d'une revue sur le plateau de Malzéville. Quel étrange, quel déconcertant spectacle, ce prophète qui mange une soupe et une salade, en racontant tout à son aise à deux vieilles femmes de campagne les extrêmes folies de l'imagination humaine.
Déjà le train siffle dans la plaine et je rentre à Paris. Par cette ligne de chemin de fer dont je connais toutes les stations, tous les tunnels, tous les ponts, les remblais, les tranchées, les signaux, sur le quai de la gare de Commercy, je n'entendrai plus la voix perchée et chantante des vendeuses de Madeleine. C'est curieux, car je crois me souvenir qu'il y avait autrefois des fils téléphoniques qui couraient tout le long de la voie entre Liverdun et Gondreville et qu'il y avait encore des hirondelles.
Vous venez d'entendre l'invité de France Culture. Aujourd'hui, Jean-François Noël, qui, avec la collaboration de François Bréhinier, vous a proposé « Petite géographie d'un voyage en Lorraine ». Avec le concours, par ordre d'entrée en onde, de M. Gaston Bollène, sous-directeur du Conservatoire de musique de Nancy, M. René Thavenot, professeur d'histoire à l'Université de Nancy, M. Marcel Martin, conseiller d'État, sénateur de Meurthe-et-Moselle et maire de Nancy, M. le baron Jean Thierry, secrétaire perpétuel de l'Académie de Stanislas, et de M. Thibault et André Épina, animateurs fondateurs de Lorraine Loisir, avec la voix de Georges Schepfer dans ses œuvres. Des textes et poèmes d'Étienne Catin, René d'Avril, Robert Laverny, Léon Tonnelier et Maurice Barrès, des extraits du spectacle Son et Lumière du château de Lunéville, Les grands chevaux de Lorraine, musique de Jean-Wilfried Garrett et le concours de René Clermont.
Et naturellement, la voix de Robert Martin que vous venez d'entendre, sans oublier l'assistance technique et artistique de notre station régionale de Nancy.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 août 1971. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.